Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Toujours là à vous accompagner sur auditrices et auditeurs de Beurre FM à la suite des informés avec Adil Farkan que vous pouvez retrouver chaque soir avec son équipe. Eh oui, 19h, 20h. C'est l'horaire des informés sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. On nous écoute dans tout le pays ce soir, mais aussi sur l'application sur vos téléphones portables, sans oublier le site internet beurrefm.net où vous pourrez réécouter les émissions en podcast. Mais ce soir, au menu de cette émission, on se 2 mars 2022. On verra quoi. Alors, on aura de la Coupe de France avec les Aiglons de Nice. Et oui, premier finaliste, tant rêvé, tant voulu. Un certain Galtier qui nous dit qu'il en rêve de cette fameuse Coupe de France 2022. Le Paris Saint-Germain, une nouvelle offre démentielle pour un certain Kylian Mbappé, oui, le gamin de Bondy, fait surgir tout le monde de la planète football en ce moment. Et aussi, Guendouzi, définitivement marseillais. Et oui, il re-signera du côté de Marseille. Justement, on verra tout cela. Le numéro du standard, le 01-53-48-3000 pour réagir. Yanis, notre réalisateur, se fera plaisir de vous faire passer à l'antenne. On y va avec le JT Sport qui nous a été réalisé par Jason. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport. Oui, on démarre les infos du mercredi par les résultats d'hier soir en Coupe d'Angleterre. Manchester City s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Peterborough, club de Division 2. De son côté, Tottenham s'est incliné 1-0 face à Middlesbrough, club de division inférieure également après prolongation. Ça joue également en Coupe d'Italie où le Milan et l'Inter s'affrontaient en demi-finale aller. Match nul 0-0 dans ce derby où évoluaient Olivier Giroud ou encore Ismaël Benacer qui étaient titulaires tous les deux au coup d'envoi. En basket, les Los Angeles Lakers se sont une nouvelle fois inclinés la nuit dernière face à Dallas 104-109. Il s'agit déjà de la 6e défaite en 7 matchs pour les coéquipiers de LeBron James. Et enfin, on termine avec un mot de boxe où Tyson Fury annonce qu'il prendra définitivement sa retraite le 23 avril prochain après son combat prévu face à Dylan White à Londres. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Merci. Eh oui, Jason, merci pour ce nouveau JT Sport en ce mercredi 2 mars. Et ce soir avec moi, pour m'accompagner jusqu'à 21h, on aura notre consultante Yasmine. Comment ça va, Yasmine ?
Très content d'être là ce soir, comme tous les mercredis soirs de toutes les semaines.
Ah, c'est le rendez-vous de Yasmine, le mercredi soir, c'est bien ça?
Voilà, si vous voulez me retrouver, m'écouter, c'est tous les mercredis soirs.
Voilà. Ah ben voilà, sur l'antenne de Beurre FM dans le Time Sport, avec Mickaël juste en face de Yasmine. Comment ça va, Mickaël?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Bah, du coup, je m'incruste dans le rendez-vous.
Ouais, voilà. Mickaël aussi. Mickaël, c'est plutôt aussi le jeudi, ouais, quelquefois, c'est ça.
Le vendredi, mais là, je me suis dit, voilà, on arrive le mercredi, il y a Yasmine, donc let's go.
Ah ben justement, avant de parler du premier sujet de cette émission, Tyson Fury, qui affirme, Mickaël, qu'il prendra sa retraite après le combat contre White. Et oui, 33 ans, le champion du monde, WBC des lourds. Et il annonce, justement. Et tout le monde, il a pris tout le monde de court, quoi.
Ouais, moi, je reste sur ma fin.
Prochain combat le 23 avril.
Justement, on a vu l'information tout à l'heure. Moi, j'y croyais pas forcément. Et puis bon, Tyson Fury, effectivement, c'est un des plus grands boxeurs que la boxe ait connu. Moi, je le voyais encore continuer encore quelques années. Je m'imaginais même un combat contre Ngannou, pourquoi pas. Et puis qu'il prenne sa retraite et qu'il nous prenne de court de cette manière-là, honnêtement, c'est une déception, quoi.
Ouais.
Bah, une déception, okay. Je sais pas, après, c'est peut-être aussi parce que...
Ouais, quand même pour les amoureux du noblard.
Non, ce que je veux dire, c'est que ça arrive... un peu vite comme ça, il faut aussi peut-être le temps qu'on se rende compte de la nouvelle. Après, oui. Comme tu l'as dit, Yasmine, c'est l'un des plus grands boxeurs, 33 ans. À un moment donné, il faut aussi que ça s'arrête, quoi.
Il n'a plus rien à prouver, c'est ce qu'il disait, justement. Oui, c'est sûr, selon toi?
Bah oui, c'est sûr, il n'a plus rien à prouver maintenant. Et il est peut-être aussi fatigué de tout ça, et il a peut-être aussi envie d'avoir d'autres priorités dans sa vie. Donc voilà, c'est sûr que pour les amoureux de boxe,
oui.
C'est un peu dur aujourd'hui.
On aurait voulu voir justement ce match entre Usyk et aussi Tyson Fury, on le rappelle, parce qu'il n'a pas les 4 ceintures des confédérations réunies. Les 4 ceintures justement avec la WBA, l'IBF, la WBO que détient Usyk, et sans oublier la WBC qui est assez mémorable, celle détenue par le Britannique Tyson Fury. Allez, on va prendre la direction justement de la French Riviera, allez Nice.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Voilà, vous l'avez compris, 20h05 et Yanis, notre réalisateur, a déjà envie de smurfer sur un pas funky. Alors justement, les Niçois avec Galtier, et oui, vainqueur de Versailles que nous avons reçu avec Youssef dans cette émission, se sont qualifiés, ces Niçois, pour cette fameuse finale de cette Coupe de France. Aïe, aïe, aïe. J'en discutais, je cite, l'après-midi du match avec un proche, ce serait formidable comme triplé avec trois clubs différents. J'ai déjà gagné la Coupe de France comme adjoint avec Alain Perrin à Sochaux et Lyon. Mais comme entraîneur principal, ça serait extraordinaire. Mais on est encore loin de ça, à lâcher le manager niçois après la partie. Yasmine et Mickaël.
Oui, Christophe Galtier, moi je suis très contente pour lui, très honnêtement, c'est un très très bon entraîneur français, décrié parfois, mais très très bon entraîneur français. En tant qu'entraîneur, lui, il a déjà remporté effectivement le championnat la saison dernière avec Lille. Il a remporté la Coupe de la Ligue également avec Saint-Étienne en 2013. Pourquoi pas justement ce triplé avec la Coupe de France avec Nice, ça serait historique. Nice qui n'a plus gagné la Coupe de France depuis 25 ans. La dernière fois, il me semble que c'était en 1997 que Nice avait gagné au Parc des Princes contre Guingamp au tir au but 4-3. Donc pourquoi pas rêver justement de gagner cette année la Coupe de France. Puis dans un autre temps, on a quand même un match qui se joue entre Nantes et Monaco. Nantes qui fait un très bon championnat. Jusqu'à présent, je crois qu'il est 7e de Ligue 1 avec 39 points. Monaco qui est un peu derrière à 9e de Ligue 1 avec 38 points. Donc c'est deux équipes assez serrées. Et dans le même temps, on a quand même Monaco qui est plus habitué à ces grands rendez-vous de sportifs de football. Donc ça va être très serré ce match-là entre Nantes et Monaco. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça sera une très belle finale. Et Christophe Galtier, je pense que lui déteste la défaite, donc il ira jusqu'au bout avec ses joueurs, quoi.
Mickaël, oui,
déjà souligner l'extraordinaire parcours de Versailles sur cette Coupe de France.
Parce oui, le petit poussé
en demi-finale de cette façon, notamment en allant gagner du côté de Toulouse. Durant les huitièmes de finale, c'est quand même un parcours assez exceptionnel. Aussi déçu que Versailles n'ait pas pu jouer son match à domicile, parce que c'était prévu de base qu'il devait le jouer à domicile, mais malheureusement, il n'avait pas les infrastructures pour accueillir un tel match. Et j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi, dans la région parisienne, ils n'aient pas eu plus d'aide, notamment du PSG. Il y a eu une demande qui a été faite pour pouvoir utiliser le Parc des Princes, ça a été refusé. Je trouve ça dommage, parce que jouer en région parisienne avec le soutien des supporters et de la région, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, plutôt que d'aller jouer du côté de l'OGC Nice, qui est en plus
quoi qu'il arrive, quand même, Nice est je pense que c'était supérieur quand même à Versailles.
Ce genre de compétition, on sait justement que le public est vraiment extrêmement important, surtout en Coupe de France. C'est vraiment l'essence de cette Coupe de France. Et je trouve que ça gâche un petit peu l'aventure des Versaillais sur ce coup. Après, Nice mérite sa qualification. Au tour précédent, ils ont fait un match exceptionnel contre l'Olympique de Marseille. Galtier réussit pour l'instant son passage à Nice, comme il a réussi son passage du côté du LOSC, comme il a réussi son passage du côté de Saint-Etienne. Moi, de base, c'était pas un entraîneur que j'appréciais forcément quand il était du côté de Saint-Etienne. J'aimais pas beaucoup son jeu, j'aimais pas beaucoup ce qu'il dégageait en tant qu'homme, dans ses déclarations, dans ses conférences de presse. Par contre, comme un joueur de foot, j'ai envie de dire, c'est un garçon qui a su, c'est un homme qui a su évoluer. Il a dit lui-même, il a beaucoup évolué dans son football, dans sa vision des choses. Et je trouve que ça serait une belle consécration pour lui, après le titre de champion avec le LOSC l'année dernière, de décrocher cette Coupe de France cette saison. Ce serait vraiment une belle consécration.
Alors,
je suis plutôt d'accord avec Mickaël. Après, c'est vrai que la Coupe de France, comme la Coupe de la Ligue, enfin plutôt même plus la Coupe de France, elle fait rêver surtout les petits clubs, c'est-à-dire comme Versailles. Elle fait rêver un petit peu les petits clubs où on se dit il y a une magie derrière cette Coupe de France où on peut se dire justement que les petits clubs peuvent gagner contre les gros. Versailles l'a bien fait jusqu'à présent, jusqu'en demi-finale, mais après, c'est normal que Nice gagne contre Versailles. Et puis, ça aurait été le contraire. Ça aurait été bien aussi pour eux. Mais C'est, pour moi, c'est la suite logique, finalement, pour
Nice. La suite logique, mais je trouve ça vraiment, vraiment dommage, en fait, parce que jouer à domicile, surtout contre Nice, en région parisienne, je pense que vraiment, ça aurait vraiment tout changé, parce que là, c'est vraiment, ça a vraiment, pour moi, c'est vraiment leur couper l'herbe sur le pied, de devoir jouer à l'extérieur. Et avec cette banderole des supporters niçois en plus, ici c'est pas Versailles, voilà. Bon.
Oui. Bon, alors comment?
J'ai pas trouvé ça.
Alors comment tu l'as trouvé cela?
Ils ont fait quand même une aide d'honneur, ils les ont applaudi.
Oui, non, je sais, mais dire, c'est que vraiment.
Bon, après, c'est les supporters, quoi.
Je me répète, mais j'ai vraiment en travers dans la gorge le fait que Versailles n'ait pas pu jouer en région parisienne.
Bien sûr. Versailles aurait dû jouer, c'est vrai, en région parisienne, ça aurait peut-être pris un. Tout autre, une
après,
toute autre
après,
tournure.
Je suis d'accord de l'autre côté avec,
ouais,
Yasmine,
avec ses supporters.
Nice est quand même largement au-dessus. C'est, je veux dire, quand on regarde le match qu'a livré Amine Gouiri, qui a ouvert le score, et j'ai été aussi content de revoir un petit peu Casper Dolberg. J'ai un peu de.
Ouais.
J'aime beaucoup ce que fait Galtier avec Nice cette saison, mais j'ai quand même un peu du mal à comprendre sa gestion avec Casper Dolberg. Notamment, il préfère faire jouer un. Le jeune Evan Guessant, bon, c'est pas un mauvais joueur, mais là il est rentré,
ouais,
il
a marqué, donc
hier t'as eu un très bon Gouiri aussi qui,
ouais,
a été, ouais, qui a été excellent,
il est toujours bon, ouais.
Voilà, il a été vraiment très très bon, mais pour continuer par rapport à cette finale là, moi je verrais bien par exemple un Nice Nantes avec une victoire de Nantes. Voilà, c'est, pour moi c'est un club historique, les Canaries, donc je vois bien Nantes gagner si Versailles maintenant n'est plus là.
Moi, si je peux donner mon avis sur la finale, la finale qui serait pour moi assez exceptionnelle, bah, c'est le derby Nice-Monaco. Là, ça risque d'être.
Ouais, assez
explosif. C'est chaud,
ouais,
chaud.
Mais c'est du déjà vu, finalement. Donc,
ouais, selon toi, Yasmine.
Oui, c'est du déjà vu.
C'est toujours des matchs impressionnants. Après, Nantes, moi, ça me plairait. Hein, Antoine Comboiré, c'est un ancien de la maison PSG. Il a été critiqué du.
Ouais, il faut qu'il y ait un ancien parisien. Parisien, excusez-moi.
Non, on va dire.
Ouais. Non, mais pourquoi pas? Mais bien sûr, mais sur le droit quand même, Michael.
Mais surtout qu'il a été beaucoup critiqué du côté de Nantes lors de son arrivée et a juste. Les critiques ont eu raison de tomber sur lui à ce moment-là parce qu'il a eu du mal à prendre son groupe en main.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, cette saison, en tout cas, c'est vraiment une équipe de Nantes vraiment enthousiasmante qu'on voit, et cette demi-finale. Ben, c'est aussi ce bon travail d'Antoine Comboiré.
Quoi qu'il arrive, je pense que ça ne sera pas forcément facile pour les Niçois, que ce soit contre Nantes ou contre Monaco, étant donné que Nice est deuxième ou troisième de Ligue 1, donc ils se battent quand même pour le podium.
Ouais.
Se dire, est-ce que finalement ils vont tout donner pour aller remporter un trophée ou
bien
finalement essayer de gagner cette deuxième place pour la Ligue des Champions la saison prochaine.
Nice a l'effectif pour jouer sur les deux tableaux largement.
Ouais, comparé.
Et surtout la Coupe de France, tu disais que c'était surtout pour les petits clubs. Bon, il y a vraiment cette dimension-là avec.
On a déjà Nice.
Avec le petit Pousset.
Peut-être on va avoir Nantes ou Monaco.
Pour moi, la Coupe de France, c'est vraiment une Coupe. Historique du football français,
ouais.
C'est une coupe extrêmement importante et je pense que Nice a l'effectif pour aller au bout et pour jouer cette finale et la remporter. Après Monaco de son côté contre Nantes, Monaco était parti pour était sur le podium l'année dernière. Cette saison c'est très compliqué, donc il y a aussi ce truc de se dire peut-être sauver la saison avec la Coupe de France.
Sophie et aussi Majid sont tout à fait d'accord sur ce que tu viens de nous dire. On le rappelle, aujourd'hui, 21h15, c'est la seconde finale, demi-finale, excusez-moi, entre les Canaries, les Nantais, qui rencontreront les Monégasques, oui, Monaco, du côté de la Beaujoire, c'est bien ça. Ouais. Camboiré, revanchard, peut-être.
Ah bah ça, c'est sûr que s'il y a bien
ça serait
un,
pas mal
s'il y a bien un superlatif qui définirait,
ouais,
Camboiré,
c'est vrai.
Revanchard. Hein,
c'est toujours.
Sûr.
C'est ce Grinta,
homme de
caractère,
meneur d'homme, ça c'est sûr.
Oui, il l'a toujours prouvé.
J'ai un peu plus de difficultés sur ses talents de tacticien.
Ouais.
Mais bon, c'est sûr que du côté de Nantes, avec. Après, ils ont quand même avec le style de joueur, ils ont quand même une très bonne équipe. Je pense notamment à Ludovic Blas.
Alors ?
Qui est l'un des tout meilleurs joueurs de football de notre championnat. Oui, et Comboiré. Moi, je pense que Comboiré. C'est vraiment arrivé à ce moment-là de cette saison avec Nantes, la saison qu'ils font actuellement.
Ouais.
C'est vraiment pour moi coup de chapeau.
Avec des joueurs, les retours de Marlin, de Simon aussi, il ne faut pas les oublier quand même, Michael.
Oui, clairement.
Oui,
clairement.
Tu es bien d'accord avec cela,
oui.
Yasmine, peut-être concernant cette seconde demi-finale qui opposera les Nantais au Monégasque ce
encore
soir.
Encore une fois, effectivement, Nantes fait un très bon championnat. Moi, je suis beaucoup plus sensible justement à ces équipes comme Nantes, comme Lens, ou d'autres équipes comme Auxerre, Bordeaux, peu importe. Mais c'est des clubs qui ont une vraie identité, qui ont un vrai passé, une vraie histoire. Et de me dire que bon, un club comme Nantes, ben moi je serais ravie pour le football français qu'il puisse gagner cette Coupe de France.
Voilà, c'est sûr qu'on n'est plus le Nantes des années 70-80 au niveau du football proposé, mais là-dessus oui, revoir le FC Nantes dans le palmarès récent, en tout cas de la Coupe de France, c'est sûr que ça ferait.
Et la belle époque nantaise quand même, faut pas l'oublier.
C'est pour ça que je te dis, c'est sûr que les Nantais d'aujourd'hui, ils seraient également à la hauteur qu'il y a quelques années en arrière. Hein.
Ouais. C'était beau à voir.
Ben,
vraiment,
moi de voir des équipes comme ça, justement, ça me fait penser à mon passé quand j'étais plus jeune, que je voyais justement des équipes de la trempe de Nantes ou même des Lensois. Ça fera plaisir à Giovanni, mais honnêtement, des matchs comme ça, pour moi, je vois vraiment un club comme Nantes pouvoir remporter justement cette Coupe de France là. Et puis ça ferait tellement du bien aussi au football français. On a tellement l'habitude d'avoir toujours les mêmes clubs qui gagnent, que ce soit Marseille, que ce soit le Paris Saint-Germain. Voilà, la Coupe de France, ça va donner aussi un vent de fraîcheur aussi au football français si c'est Nantes qui l'a remporté.
Chelsea vit des heures très agitées malgré lui. Oui, le club londonien. Abrahamovic a mis le club en vente. Michael, peut-être une réaction concernant cela, la Première Ligue.
C'est un petit coup de tonnerre, un gros coup de tonnerre. Roman Abramovic a déclaré aussi que l'intégralité des bénéfices sur cette vente seront reversés à un fonds de soutien aux victimes en Ukraine du conflit. Donc c'est bien de sa part. Après, maintenant, la question c'est de savoir qui aujourd'hui peut acheter Chelsea. Il a annoncé le prix autour de 3,6 milliards.
Ouais, là aussi c'est autre chose. Hein.
Donc ça c'est autre chose. Après, Roman Abramovich, c'est vraiment un dirigeant emblématique de Chelsea. Il est arrivé à Chelsea.
Il aura amené beaucoup de succès.
Il a donné beaucoup de sous et beaucoup de succès.
Oui.
Et c'est vraiment sous l'égide de Roman Abramovich que c'est le grand Chelsea est
c'est
arrivé.
Pas
donc c'est sûr que s'il doit partir, ça sera une page qui va se tourner. Ouais. Une page.
Je suis extrêmement déçu et triste si effectivement lui vendait le club. 3,6 milliards avec les dettes, je trouve ça énorme. Qui pourrait aujourd'hui pouvoir racheter Chelsea?
Et Conor McGregor peut-être de l'UFC MMA.
Ah oui, mais lui c'est pas 300 millions qu'il va mettre
qu'il collaborera dessus, avec son réalisateur peut-être Yanis.
C'est 3,6 milliards qui aujourd'hui à cette somme-là, à part des oligarques russes. Mais je suis extrêmement déçu parce que effectivement moi j'ai connu un peu Chelsea, j'ai même commencé à soutenir Chelsea en tant que Marseillaise au moment où Drogba est arrivé à Chelsea. Ouais. Donc moi j'ai connu un peu la belle époque des Blues avec Drogba, Lampard,
Yasmine
et compagnie.
Allez, merci, on va faire une courte pause, la première, avant de revenir avec Kylian Mbappé de Paris Saint-Germain.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de notre consultante Yasmine, sans oublier Mickaël, le 01 53 48 3000. Faites-nous un peu travailler, c'est Yanis, notre réalisateur. Il est 20h et 23 minutes. Eh oui. Alors, le président Emmanuel Macron a parlé. Nous, on va parler de certains Kylian Mbappé.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, là, il faut enchaîner, faut la casse, hein, Mickaël, hein. Il est pressé, de sortir, ce soir. Hein, il a attendu, notre réalisateur Yanis. Alors que le Paris Saint-Germain, justement, aurait proposé, Mickaël, une offre de prolongation démentielle à un certain Kylian Mbappé, excusez-moi, qui porterait sur un contrat de 2 ans avec un salaire, Yasmine, annuel de 50 millions d'euros net, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros, et cela ne changerait rien. Même le présentateur que nous connaissons très très bien, Pedrerol, de El Chiringuito TV en Espagne, le disait justement, et l'a vraiment affirmé lors de son émission. Mickaël.
Après, c'est des sons de cloche qu'on a du côté de l'Espagne.
Un accord a été donné, selon certains.
Voilà, un accord. D'ailleurs, ça a été confirmé par Fabrizio Romano aussi, un accord verbal Mbappé aurait donné un accord verbal au Real Madrid. Après, il y a le son de cloche du côté de l'Espagne, le son de cloche du côté de la France, c'est que les positions entre le clan Mbappé et le PSG se seraient un petit peu réchauffées. Mbappé de son côté lui dit que ce sera pas une question d'argent, mais comme souvent le PSG, quand il est dos au mur, bah il répond par des sommes mirobolantes. Là, ce qu'on annonce sur 2 ans, comme tu l'as dit, c'est 50 millions d'euros nets annuels plus une prime à la signature de 100 millions d'euros. Je sais pas dans le passé si on a vu une telle offre sur une durée aussi courte. Mais le PSG là aujourd'hui est dos au mur parce que Mbappé c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. C'est par lui que la lumière s'allume. C'est lui qui fait tout, qui fait les passes décisives, qui marque les buts, qui insuffle de la vie dans cet effectif, dans ce collectif-là. Il a pris une place impressionnante depuis 2 ans maintenant. Et le souci du Paris Saint-Germain, c'est que il s'est mis tout seul dans cette situation. Pour moi, c'est pas logique. Quand t'as un joueur comme Kylian Mbappé, que t'as payé 180 millions d'euros à l'AS Monaco il y a un peu moins de 5 ans maintenant, et que tu te retrouves à la fin de son contrat et que c'est Mbappé qui a les cartes en main aujourd'hui, pour moi c'est une faute professionnelle du Paris Saint-Germain.
Ouais, on le disait.
Soit Mbappé à un moment donné il veut pas prolonger et dans ce cas-là tu le vends.
Ouais.
Soit il prolonge et dans ce cas-là tu construis avec lui, mais c'est pas possible aujourd'hui en 2022, quasiment en juin 2022. Donc s'il part, c'est pas possible que ton meilleur joueur, ton joueur le plus bankable au niveau du merchandising et au niveau de l'image, en tout cas peut-être pas le merchandising aujourd'hui mais dans le futur, parce que les Neymar, Messi, tout ça, c'est quand même plus sur la fin que sur le début. C'est pas normal que tu te retrouves avec ton meilleur joueur qui doit partir comme ça. C'est une catastrophe économique et sportive.
Ouais.
C'est vrai qu'on parle d'une somme astronomique. Je ne serais pas étonnée non plus que l'offre augmente d'ici quelques jours. Oui. Après, pour revenir un peu dans l'histoire, c'est vrai qu'après l'arrêt Bosman, où on a eu la libéralisation du marché du travail dans le sport professionnel, notamment en Europe, on a eu d'une part une évolution des salaires. Concernant les footballeurs et les sportifs, et d'autre part en même temps une croissance des prix des transferts. Alors on a ce qu'on appelle aussi en sociologie la théorie des superstars. Très simplement, c'est la théorie qui conduit au résultat où tu vas avoir de petites finalement différences de talent qui vont engendrer d'importants écarts en même temps de rémunération derrière. Ce qui va expliquer notamment par la rareté relative du talent par rapport à la taille du marché du talent. L'idée principale, en fait, c'est que les joueurs, quand ils vont se retrouver dans une situation où ils vont pouvoir renégocier leur contrat, ils vont être dans une telle position qu'ils vont faire naître, on va dire, une situation un petit peu de hold-up, entre guillemets. C'est-à-dire que ils vont réaliser, on va dire, un braquage dans le sens où ils vont mettre en difficulté leur club, où ils vont réussir à revaloriser leur contrat, ou s'ils n'arrivent pas à faire ça, finalement ils vont partir dans un autre club et avoir un salaire qui va être supérieur à ce qu'ils ont. De toute manière, ils sont gagnants. Alors à ce moment-là, les clubs, ils vont quand même essayer de mettre en place des stratégies pour un peu contrer cette situation entre guillemets de hold-up. Donc ça va être très simple, eux ils vont faire un calcul qui va être basé sur les pertes que pourra engendrer justement le départ du joueur, en l'occurrence là de Kylian Mbappé. Ils vont tripler sa valeur. Ils vont tripler sa valeur et ils vont faire un rapport par rapport à le contrat de travail le contrat salarial qu'ils vont lui donner par derrière. Donc ils vont avoir deux possibilités. C'est soit ils vont se dire bon ben on va lui proposer une certaine somme. Si on triple finalement sa valeur marchande, si les pertes qu'ils ont anticipées elles sont inférieures au salaire finalement qu'ils leur proposent, le club lui finalement il va décider de laisser partir le joueur. Si dans un autre côté finalement les pertes anticipées elles sont supérieures au salaire que le club propose aux joueurs, là le club ici va décider de garder le joueur. En l'occurrence là, si par exemple, je dis n'importe quoi, si Kylian Mbappé vaut on va dire 100 millions et que tu triples sa valeur, il fait 300 millions et dans le même temps en fait tu lui donnes 50 millions, finalement t'as tes pertes qui sont supérieures, donc tu vas le garder forcément. Donc je serais pas étonnée si dans les 2-3 prochains jours, ben l'offre elle va encore augmenter, son salaire va encore augmenter. Donc dans tous les cas,
ce qui est compliqué, c'est que Mbappé il a fait comprendre, c'est que de toute façon il prolongera pas sur une longue durée, on sera que sur une courte durée. Donc là, s'il prolonge de 2 ans, ça veut dire que l'année
c'est beaucoup déjà 2 ans.
Oui, ça sera beaucoup, mais ça veut dire qu'en fait il va rester 1 an. Et ça veut dire que l'année prochaine, il sera encore une fois à 1 an de la fin de son contrat. Et du coup, il va partir dans ce cadre-là. Donc le PSG va pas non plus pouvoir le vendre avec un montage comme ça. Je vois pas le PSG le vendre 250 millions. Après, le Paris Saint-Germain a fait le choix l'été dernier de refuser 200 millions d'euros du Real Madrid. Moi, sur le coup, je l'ai compris. Là, je l'ai compris ce refus, parce que perdre un tel joueur à ce moment-là de la saison, et surtout un joueur comme Mbappé, c'est pas un joueur que tu remplaces comme ça. Donc c'était assez compréhensible. Après, c'est vrai que économiquement parlant, le PSG aujourd'hui, on sait que le PSG a un budget assez limité, etc., et que le fair play financier, il a été allégé depuis les soucis liés à la crise du Covid. Mais dans tous les cas, moi aujourd'hui, un joueur comme Kylian Mbappé qui part libre, je pense que le PSG là, forcément, ils vont tout tenter, mais tout, financièrement parlant. Et le truc, c'est que Mbappé, lui, veut aussi des garanties sportives. Alors comment tu fais comment fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Tu vas donner une place centrale à Kylian Mbappé dans ton projet, alors que tu as déjà Neymar et que tu as recruté Lionel Messi. Donc en fait, le plan qui est mis en place par le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il n'est pas cohérent. Il n'est pas du tout cohérent, parce que si tu voulais depuis le départ, parce que les négociations, les pourparlers, ils sont engagés depuis un bon moment. Donc si depuis le départ tu veux donner les clés du camion à Kylian Mbappé, pourquoi tu fais venir Lionel Messi cet été?
Le problème, c'est que plus tu mets de l'argent sur un joueur, plus tu lui donnes de l'argent en termes de salaire, et plus lui se sent obligé de donner des performances qui sont à la hauteur aussi de son salaire. Donc tu lui mets également une très grosse pression. Je suis pas sûre que dans le même temps, le Real Madrid va lui proposer le même salaire.
Donc
dans ce cas-là, moi, si j'étais Kylian Mbappé, je pense que même si en termes de salaire, je serais moins payé au Real Madrid, mais je sais que j'aurais peut-être un petit peu moins quand même la pression. Je dis pas que je l'aurais pas du tout, j'aurais un petit peu moins la pression. Et puis tu sais très bien que le projet sportif du Real Madrid, c'est quelque chose de beaucoup plus durable. Et s'il a réellement envie
après il y a l'image du club qui joue.
Alors,
parce que Kylian Mbappé, ça fait un moment et on le sait qu'il veut jouer au Real Madrid et qui jouera forcément au Real Madrid dans sa carrière. Il y a l'image du Real Madrid qui compte, et il y a aussi le fait que il peut arriver en sorte de tête de gondole d'un nouveau projet du côté du Real, et ça peut lui plaire par contre, parce que aujourd'hui le PSG, il y a beaucoup de stars, et lui finalement il est arrivé parmi tant d'autres, et finalement il s'est fait un peu sa place tout seul, parce que au début c'était plutôt Neymar qui était le centre névralgique du Paris Saint-Germain. Lui, c'était un peu le second Neymar. Il a eu des moments un peu compliqués, mais c'est normal, il était jeune. Je pense notamment au match contre Manchester United en 2019. Mais bon, à cette époque-là, il avait que 20 ans, on se rend pas compte. Et aujourd'hui, il a 23 ans et je pense qu'il est arrivé à une certaine maturité footballistique.
Oui.
Et c'est sûr que là, maintenant, s'il part, le Real Madrid va récupérer un monstre à tous les niveaux. Et après, on est aussi dans une... Juste pour terminer, on arrive aussi, je pense, à un certain tournant aujourd'hui dans le football, en tout cas dans le marché, avec des joueurs qui ont pris un peu plus l'ascendant sur les clubs. Et je pense que... Moi, à mon avis, Mbappé va partir au Real Madrid. Et ce ne sera pas le seul joueur dans ce cas-là. Il y a eu David Alaba l'année dernière qui a signé au Real Madrid libre. Il y a eu Donnarumma qui a signé au PSG libre du Milan. Et je pense que c'est des situations qu'on va de plus en plus voir dans le football, dans le futur du football.
De toute manière, il a tout intérêt encore à faire traîner les choses, à ne pas donner sa décision définitive publiquement. Ça fait monter effectivement du coup les enchères par rapport à son salaire. Mais moi, je suis pas sûre par rapport au Real Madrid qu'il ira quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. J'ai peur que si justement il y va pas libre là. au mercato estival, j'ai peur que justement il se grille une chance en se disant quand même voilà, on aurait pu l'avoir gratuitement, le Real Madrid ne sera pas en mesure de payer 200 millions ou plus la saison prochaine.
Déjà l'offre l'année dernière.
Et puis Kylian Mbappé, c'est aujourd'hui qui est à la hauteur de Kylian Mbappé. Le problème c'est qu'il lui manque aussi de la concurrence. Si tu lui mets dans son équipe tous les meilleurs joueurs du monde, il n'y a plus d'intérêt sportif en même temps, en tant que joueur professionnel, il n'y a plus d'intérêt pour lui d'être avec tous les meilleurs joueurs du monde dans une équipe. Là, tu vois bien qu'il est au-dessus. Donc, le mettre dans un autre championnat et de le mettre peut-être, moi après je rêve un petit peu en me disant si il a Haaland, si ou sinon même si Haaland va à Barcelone, il aura une concurrence qu'on va retrouver comme à l'époque de Cristiano Ronaldo et Messi.
On a Bastien, Merwan, qui te passe le bonjour, Yasmine.
Merci.
Voilà, c'est des auditeurs de Beurre FM. On a aussi Mickaël, on a Achille qui nous dit tant qu'il sera sous la coupole de ses parents, il restera au Paris Saint-Germain pendant 2 ou 3 ans. Ce n'est pas lui qui décide à 100%, il sera parisien à 95%. Kylian Mbappé.
J'espère que coucou Achille et j'espère que t'as raison Achille parce que moi j'ai après je pense que t'as tes infos et voilà mais moi de mon avis en tout cas personnel j'ai pas de contact avec le clan Mbappé ou quoi que ce soit la situation sent pas très bon pour le PSG aujourd'hui à l'instant T parce que s'il devait enfin c'est quand même une situation, je vais pas dire inédite, mais le fait que t'es un joueur aussi important, aussi un capital, aussi rayonnant dans un club, qui soit en fin de contrat, à moins de 6 mois de la fin de son contrat et qui n'est toujours pas prolongé en mars. Dans tous les cas,
faut poser des questions. C'est ça. Ça sent pas bon.
Est-ce que finalement, il attendrait pas aussi une décision de Haaland, de savoir qu'est-ce qu'il va faire aussi la saison prochaine? Est-ce qu'il va venir au Paris?
Est-ce qu'ils n'iront pas tous les deux justement
au Real Madrid? Je pense que ça pourrait être aussi intéressant pour lui de prendre ça en considération.
Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. La suite des programmes, on reviendra aussi sur le Marseille Guendouzi. On reviendra, on essaiera sur le Paris Saint-Germain, ça c'est promis, à l'approche de ce fameux match 8e de finale, retour du côté du Santiago Bernabéu. Vous restez avec nous, bien connectés.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, il est toujours souriant. Lui, en revanche, je crois qu'il aimerait voir, tout comme Louis-Marie, Kylian Mbappé du côté de Madrid. Yasmine Vallée, peut-être, on va rester encore sur Mbappé, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid avec Mickaël aussi.
C'est bien par rapport aux consultants de Time Sport. Parce
justement.
On est très partagés.
Louis-Marie, il dit, on va le donner comme ça à l'antenne de Beurre FM, tu fais bien de te laisser les 5% de marge.
Par rapport à Achille,
oui.
Il ne faut pas les oublier. On est tous assez partagés, donc certaines personnes, effectivement, ont leurs sources. Mais c'est vrai que la semaine dernière, je crois que c'était Boula qui a affirmé, lui, à 100%.
Boula a affirmé que Zidane ne viendra pas au Paris Saint-Germain.
Et a affirmé également que Kylian Mbappé allait rester au Paris
comme
Saint-Germain.
Comme Achille.
Mais moi, on va dire que je suis du même avis que Louis-Marie et que je crois Mourad aussi. Je pense réellement que voilà, il a besoin d'un nouveau challenge et c'est le moment pour lui, il se sent prêt. Et puis voilà, il faut qu'il s'en aille, mais je pense pas réellement qu'il va continuer au PSG la saison prochaine.
Alors, on t'écoute, Mickaël.
Il faut qu'il s'en aille, je sais pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il a acquis une position au Paris Saint-Germain, la position qu'il voulait. Il est aujourd'hui deuxième meilleur buteur, co-deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG avec Zlatan Ibrahimovic. Étant donné que c'est quand même un challenger, un joueur qui veut atteindre les records, qui veut dépasser tous les records, donc il pourrait avoir ce truc de se dire j'ai 23 ans, je peux rester encore 1 ou 2 ans au PSG, tenter de gagner la Ligue des Champions et partir comme un roi de Paris, avoir tout gagné dans ma ville. Et après, partir au Real Madrid, il pourrait avoir cette vision-là des choses. Après, je pense que sa vision actuelle, je pense que c'est quelqu'un qui vit sa carrière à fond. Comme il l'a toujours dit, il n'aimait pas qu'on parle de son âge, etc. Parce qu'il a toujours été dans l'instant présent et dans ce qu'il arrivait à faire dans l'instant présent. Et je pense ce qu'il a envie aujourd'hui, je pense qu'il a envie d'un nouveau challenge. Je pense qu'il a envie de connaître un nouveau pays, une nouvelle culture. Et je pense tout simplement qu'il a envie d'aller au Real Madrid. Après... Est-ce que ce sera cette saison ou est-ce que ce sera l'année prochaine? Parce que s'il prolonge, de toute façon, ça sera que 2 ans. Et donc, je pense qu'il restera qu'un an au Paris Saint-Germain. Aussi pour que les Qataris puissent avoir Kylian Mbappé, ça en parlait aussi dans certains médias, pour que les Qataris puissent avoir Kylian Mbappé au PSG pendant la Coupe du Monde 2022, ça serait un objectif. Mais moi, je reste sur mon avis de base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a moins de 6 mois de la fin de son contrat, il n'a toujours pas prolongé. Donc avec ces cartes-là sur la table, moi personnellement, je suis moins optimiste que mes collègues et mes amis Boula.
Il est malin, Kylian, parce que il fait monter les enchères en disant là, il est du coup deuxième meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Cavani est encore devant.
Il reste encore, effectivement,
il y a Cavani qui est devant, donc il dit pourquoi pas effectivement aller chercher le record de Cavani. Donc il fait un petit peu aussi monter les enchères actuellement. Il sait dans quelle position il est, en position de force, c'est dans quelle position il est. Après, voilà, il en joue et je pense que justement, ça dépendra aussi de son parcours dans la suite, dans son parcours de la Ligue des Champions. S'il gagne pas, effectivement, en plus de ça, donc la finale est relocalisée au Stade de France avec les événements qui se sont passés récemment. Donc on parle que voilà, c'est l'année pour le PSG, c'est l'année pour Kylian. Donc je pense vraiment que ça va être aussi un petit peu conditionné par ce parcours en Ligue des Champions.
Et surtout que le clin d'œil du destin, c'est ce match aller-retour contre le Real. On verra ce qui en débouche, mais en tout cas, si le PSG élimine le Real et domine de la tête et des épaules comme ils l'ont fait sur le match aller, je trouve ça dommage qu'ils quittent le PSG là.
Alors, on poursuit, on va laisser quelques minutes, c'est promis, hein, pour les supporters marseillais. On a des coups là avec les supporters parisiens. Il va battre les records au sein du club, emmener la Ligue des Champions et partir peut-être. Tu en penses quoi? Là, c'est des auditeurs de Beurre FM qui nous disent cela. Justement, et il insiste aussi, il n'a pas prolongé, c'est uniquement en lien avec les 35 millions. Justement, que le PSG devrait verser à Monaco, Mickaël. Toi, tu es dans les petits papiers, les petits tuyaux, si je peux me permettre, tout comme Achille, ou encore Mourad.
C'est sûr.
Boula, peut-être, hein.
C'est une problématique, les 35 millions que le PSG doit reverser à l'AS Monaco. Il y avait même une information de nos confrères du Parisien qui est sortie hier soir, qui faisait état d'une possible. Pas une prolongation, mais en tout cas une négociation de contrat, une nouvelle négociation de contrat avec Kylian Mbappé, sans prolongation, simplement pour faire sauter cette clause des 35 millions qui doivent reverser à l'AS Monaco. Donc c'est sûr que c'est un paramètre à prendre en compte.
Oui,
je ne comprends pas forcément pourquoi c'est si problématique que ça pour le PSG de devoir reverser 35 millions à Monaco. C'est quasi rien pour eux.
C'est pas rien non plus. Aujourd'hui, il y a les comptes. Enfin, le PSG a une masse salariale qui est très importante. Le fair play financier, même s'il est extrêmement assoupli, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a la DNCG, etc. Donc, surtout si Mbappé part libre, voilà, il y a aussi un amortissement à avoir, un minimum en tout cas.
Moi, je suis le PSG. Je me dis, bon, si je veux, effectivement, je laisse partir Kylian Mbappé. Qui je ferais venir à la place, qui serait du même calibre que lui,
oui.
Pour que mon projet sportif tienne la route la saison prochaine aux côtés de Messi et Neymar, si également ces deux-là restent au club.
Allez, le dernier sujet de cette émission, on y va.
Time Sport, le mode pressing.
Mon meilleur choix, je cite, depuis des années. Guendouzi, qui déclare donc cette flamme à la cité phocéenne. Eh oui, avec ces phocéens, justement. Eh oui, il aime beaucoup et il s'y sent bien à Marseille. Guendouzi.
Oui, c'est une histoire qui continue finalement pour Guendouzi et pour l'Olympique de Marseille.
Oui.
Finalement, l'Olympique de Marseille a réussi à l'acheter. Ça a été assez simple. Hein. C'était simplement la condition, c'est comme pour Under, c'était que l'OM se maintienne en Ligue 1. C'était voilà quasi assuré. 10 ou 11 millions d'euros, il me semble. Je trouve que c'est assez raisonnable pour un joueur de ce calibre-là. Il est jeune. Il vient d'intégrer aussi l'équipe de France. Il a, je pense, un bel avenir et je pense que l'OM correspond bien aussi à la personnalité du joueur et lui correspond bien aussi à l'identité du club. Je pense que Marseille avait besoin d'un joueur un peu un peu de il me fait penser un petit peu à Loric Sana, il est assez il y rentre dedans, c'est un leader Guendouzi et l'OM avait vraiment besoin de joueurs comme ça et puis il correspond aussi à la mentalité un peu de Sampaoli, c'est lui qui a réussi à le convaincre avec Longoria. Et puis moi je pense que c'est une grosse perte quand même pour Arsenal, ça aurait été bien aussi dans le même temps que Arsenal et Gunners puissent garder Guendouzi, mais c'est pas plus mal pour l'Olympique de Marseille en espérant pouvoir construire la saison prochaine aussi autour de Guendouzi, autour de Under, pourquoi pas, et de voir ce que ça va donner, notamment en Ligue des Champions la saison prochaine.
Ouais. On a Magid qui nous dit plutôt Colocini, la chevelure. Ça le fait penser. Ouais, moi je balance les réactions des auditrices, des auditeurs. Oui, Michael, Marseille, Guendouzi.
Guendouzi, moi déjà, d'un titre personnel, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, en tout cas de ce qu'il dégageait.
Alors
déjà dans ses tout débuts avec le FC Lorient. Malheureusement, il est parti. Il a fait le choix de partir du côté d'Arsenal. C'était peut-être un petit peu précipité. Ça s'est pas très bien passé là-bas et c'est un euphémisme. Il a eu ce petit épisode du côté de la Bundesliga qui s'est bien passé également. Et je pense que, comme il l'a très justement dit, je pense que aller à l'Olympique de Marseille, ça a été un excellent choix. J'en avais parlé ici au moment des négociations. Je disais que c'était un très bon choix de la part de l'Olympique de Marseille et de Guendouzi, ce mariage. Parce que c'est typiquement le genre de joueur qui peut exploser sous la houlette d'un coach comme Sampaoli. Je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin, d'avoir ce coach qui va le faire mûrir. Et aujourd'hui, on sent que footballistiquement parlant, Matteo Guendouzi, il est bien, il marque des buts, il a une panoplie qui est quand même assez impressionnante dans la passe, la récupération, dans ce qu'il est capable de faire dans les transitions, il est même capable de marquer maintenant. Donc pour une équipe comme l'Olympique de Marseille qui va certainement se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine et qui va peut-être perdre Bouba Camara, pouvoir compter sur un joueur comme ça.
Ils ont un triste quand même.
La prochaine, c'est positif.
Ouais. Oui, il a été tout de suite mis en confiance par Sampaoli. Il a tout de suite été intégré dès le début de la saison dans le 11 titulaire. Il s'est très bien adapté au système de Sampaoli. Guendouzi, c'est 26 matchs depuis le début de la saison. C'est 2 buts, 3 passes décisives. C'est un des hommes forts de l'Olympique de Marseille. 89% de passes réussies en moyenne par match. C'est un joueur quand même qui a son empreinte dans cette équipe marseillaise. Et c'était tout à fait normal et logique qu'il puisse continuer l'aventure marseillaise.
Oui, on l'espère en tout cas.
Oui, après c'est aussi savoir
Marseille.
Déjà l'OM avait fait un petit trou sur ses concurrents il y a quelques journées de ça. Ils avaient pris 4 points d'avance sur le GC Nice. Là il reste sur 2 matchs assez compliqués contre Clermont et Troyes. Mais je pense quand même qu'ils arriveront, en tout cas avec la qualité de l'effectif, et si Sampaoli a envie de faire jouer Arkadiusz Milik, parce qu'il n'a pas l'air de vouloir faire jouer son meilleur buteur, ce qui est assez problématique.
Les choix un peu. Ouais.
Voilà. Bon, on va dire qu'il a
un peu bizarre. Selon certains supporters aussi.
Il a une certaine philosophie de jeu.
Ils sont partagés.
Il préfère.
Il préfère Payet en numéro 9.
Équipe, il préfère jouer avec Payet en faux numéro 9. Mais c'est dommage parce que Milik, il est vraiment excellent à chaque fois qu'il joue.
Oui, pour toi.
Et surtout, il est prêté par le Napoli. Donc ce traitement. L'OM peut passer à côté d'un vrai joueur de classe, et surtout s'il se qualifie en Ligue des Champions. Je suis désolé, j'aime beaucoup Payet et c'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est pas un joueur qui doit jouer sur la durée en tant que 9,5.
Aussi.
C'est un joueur pour moi qui doit jouer déjà dans l'axe.
Ça, c'est intéressant.
Il ne va plus jouer sur un côté. Il ne peut plus parce qu'il n'a plus le coffre. Mais dans l'axe, derrière un attaquant comme Milik ou comme Bakambu, il faut voir Bakambu parce qu'il a fait des bons débuts, mais physiquement, il n'avait pas joué depuis un bon moment. Mais en tout cas, avec un Bakambu en forme ou un Milik, ou même les deux, comme on l'a vu contre Angers. Pour moi, c'est la meilleure position pour Payet. Et l'année prochaine, s'il y a la Ligue des Champions, je vois pas l'Olympique de Marseille aller en Ligue des Champions avec Payet en faux numéro 9. Je suis désolé.
Tout, tout, tout
et surtout, en plus, avec des joueurs à côté comme Under, et Conrad de la Fuente ou Dieng, qui sont pas des joueurs qui marquent beaucoup de buts.
De toute manière, tu peux pas forcément faire reposer ton équipe principalement sur Dimitri Payet. Là, il est plus sur la fin. En ce moment, ça fait quelques matchs où il est en baisse de régime quand même. La saison n'est pas encore terminée. Moi, je le trouvais assez en méforme ces derniers temps. Donc, t'es obligé de comment ?
Il a commencé très très fort.
Voilà, il a commencé très fort sa saison. Il a fait de très bons matchs. Il a été un leader, mais actuellement il est plus sur la pente descendante que le contraire. Après, moi ce que je retiens encore par rapport aussi à Guendouzi, c'est encore une fois c'est le recrutement de Pablo Longoria. Je trouve qu'il a été depuis qu'il a pris la direction de l'Olympique de Marseille, en tant que président, il a été, il a quasiment fait un sans faute. Après, effectivement, voilà, il y a eu Harit qui a pas été à la hauteur. Luis Enrique, j'en parle plus.
Beaucoup de recrutements, donc forcément.
Il a fait des recrutements intelligents. Beaucoup de joueurs sont venus avec des options d'achat. Donc là, on se retrouve, à acheter définitivement Guendouzi. Il y a encore des contrats qui sont sur la table. Hein, Saliba, Under. Il y a pas mal de joueurs encore qui pourraient rentrer définitivement dans le projet sportif marseillais. Et puis il a récemment dit justement que ce serait le dernier club qui présidera dans le football pour l'Olympique de Marseille.
Oui, Longoria.
On termine avec toi, Mickaël.
Longoria fait du très bon travail. Moi, j'ai suivi son.
On peut pas négliger quand même le travail de l'Espagnol Longoria
qu'il a accordé à nos confrères de RMC hier. Je suis assez bluffé aussi par son niveau de français.
Oui, de qualité. Grand monsieur, gentleman.
Je pense de toute façon quand t'arrives avec son parcours aujourd'hui, il a 34 ans, arrivé à la position à laquelle il est aujourd'hui, c'est pas rien, surtout que c'est quelqu'un qui à la base a plus une formation de recruteur, donc il a vraiment cette double casquette.
Mais surtout dans l'état dans lequel il a repris l'Olympique de Marseille aussi,
ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il a vraiment plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'il a ce côté recruteur avec un réseau, il a ce côté aussi donc plus dans le management, et aussi il a aussi un rôle très important au niveau du relationnel avec les joueurs dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui est très apprécié par les joueurs, qui échange beaucoup avec eux, donc une forte relation avec Sampaoli, donc le duo pour l'instant fonctionne assez bien, même si Sampaoli de toute façon à l'image de Marcelo Bielsa qui est son mentor, est quand même un personnage qui est quand même très arrêté sur beaucoup de prises de décision, donc surtout du côté de l'OM ça fonctionne bien et les supporters l'aiment beaucoup, mais à l'image d'un Bielsa, c'est quelqu'un qui peut péter un boulon aussi, donc il faut voir sur la durée.
On verra bien. Un grand merci à Yasmine de m'avoir accompagné.
Avec plaisir.
Merci aussi à toi, Mickaël. Aussi à nos auditrices, à nos auditeurs de Beurre FM, toujours là, au rendez-vous. Merci à la réalisation, la personne de Yanis, notre réalisateur, qui nous réalise vraiment bien et pourra manger. Mais voilà, d'ici, allez, même pas deux petites minutes. Un grand merci aussi à toute l'équipe, aux petites mains de la rédaction de Beurre FM, en la personne
merci
de Kézol. Aussi de Farid, de Nathan, de Fred, Merwan, sans oublier Sarah et Mourad. Et Abdel, qui nous manque tant aussi. Notre Abdelou, on le retrouvera durant la semaine. Et aussi, allez, nous dédions cette émission. Un grand monsieur, présentateur, vedette du JT de TF1, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 71 ans, Jean-Pierre Pernaut. Qui souffrait d'une maladie. Il avait passé tout de même 33 ans, à peu près, une trentaine d'années, à la table des Français, c'est comme ça. Et aussi sous l'égide d'un Étienne Moujotte, alors vice-président de TF1, pour concurrencer un peu ses confrères du service public FR3 et son réseau régional. Et il avait décidé et envoyé des journalistes hors pair, hors de Paris, plutôt en province. Cette mission, Yanis, était de rapporter une certaine image de la France, faite de clochers, mais aussi marchés, pourquoi pas encore de nouvelles rassurantes, des gens de province, mais pas que des Parisiens. Voilà. Monsieur Pernaut nous manquera. Nous, on se retrouve dès demain, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. À 22h, vous retrouverez Vanessa à la réalisation avec Giovanni. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.